Bonjour à tous. Au lendemain de Davos, retour sur ces inégalités qui fracturent le monde avec l'économiste Esther Duflo, professeure au MIT, l'Institut de technologie du Massachusetts. L'économiste qui vient par ailleurs d'être nommée au tout nouveau Conseil scientifique de l'éducation nationale. On lui demandera si expérimentation et réussite scolaire peuvent aller de pair. Esther Duflo, notre invitée dans la deuxième partie donc de la Grande Table. Mais d'abord, un premier film et un coup d'essai plus que réussi. Jusqu'à la garde est une affaire de famille, l'histoire d'un couple qui se sépare et se déchire pour la garde des enfants sur fond de violences conjugales, de manipulations, de récupérations ou de tentatives d'évincement de l'autre. Premier long métrage du réalisateur, le film a fait sensation au dernier festival de Venise, couronné de deux lions. Son réalisateur, Xavier Legrand, est notre invité. À écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard, si vous le souhaitez, sur franceculture.fr.
La Grande Table. Olivia Jesbert.
Il y a du Shining de Kubrick en lui pour Libé. La rencontre entre Maurice Pialat et Alfred Hitchcock pour le magazine Positif. L'enfant de ces deux maîtres du cinéma, c'est Xavier Legrand, notre invité. Bonjour.
Bonjour.
Jusqu'à la garde, bande-annonce.
Voilà ce qu'a dit Julien. Julien a 11 ans, il est en 6e A1 au collège Théodore Monod de Saint-Dumont et il a dit... Mes parents sont séparés depuis un an. Je vis maintenant ici avec maman et ma sœur. On va fêter les 18 ans de ma sœur à la salle des fêtes de Vial. On habite tous là-bas chez papy et Nani, sauf mon père. Par contre, je ne peux jamais jouer devant la maison ou dans le jardin, car on a peur que l'autre vienne. Papy se met à crier quand il le voit et c'est pas bon pour sa santé. Quand il vient, je m'inquiète pour maman, parce qu'il veut juste lui faire du mal, juste ça, c'est pas un père et c'est pour ça que je suis contente que mes parents divorcent. Joséphine aussi, elle ne l'aime pas, mais elle n'est pas obligée de le voir vu qu'elle est grande. Moi aussi, je ne veux plus jamais le voir et je ne veux pas que le juge m'oblige à aller avec lui une semaine sur deux ou un week-end sur deux parce que je ne veux plus le voir, plus jamais, je n'ai plus rien à ajouter. Voilà, bien, Maître Davigny, je vous écoute. J'ai l'impression que vos enfants sont remontés contre vous, monsieur. Vous pouvez expliquer ça ?
J'aimerais bien comprendre. Je ne sais pas ce qu'on leur met dans la tête.
Pas un documentaire, pas un film social. Vous revendiquez l'étiquette thriller pour ce premier film, Xavier Legrand. Qu'est-ce qui fait un bon thriller ? Quels sont les ressorts pour vous du drame psychologique ?
C'est de ressentir une tension constante en tant que spectateur, d'être crispé à son fauteuil, d'être pleinement dans les images et dans le son, et de traverser corporellement une histoire.
Comment s'assurer que ça va marcher ? Vous le ressentez, vous, déjà, pendant le tournage, derrière la caméra,
oui.
Cette tension-là ?
Oui, bien sûr.
Il faut qu'elle existe sur le plateau ?
Il faut qu'elle existe sur le plateau entre action et coupé, oui. Il faut absolument convoquer quelque chose d'effrayant, de froid, et en même temps d'extrêmement humain et chaud à l'intérieur des corps.
Alors comment on fait pour mettre en scène la peur ?
Eh bien, on se pose plein de questions. D'abord, dramaturgique. Qu'est-ce que c'est la peur ? Et en fait, la question est surtout de dans quelle position on met le spectateur, et qu'est-ce qu'on lui donne à montrer et à ne pas voir ? Le hors-champ, le champ, c'est ça qui, c'est convoquer l'imaginaire aussi du spectateur plutôt que de tout lui montrer, tout lui expliquer. C'est essayer de le mettre comme ça dans une attitude de tension constante où il travaille. Il travaille en regardant, en se demandant ce qu'il va se passer, en étant toujours un peu bousculé, de ne s'attendant pas à s'attendant à quelque chose et que finalement ça ne vient pas, ou au moment où on ne s'attend pas à quelque chose, ça survient. C'est ça qui malaxe la peur.
La peur, chez vous aussi, a un visage, mais pas celui qu'on croit. La violence reste dissimulée, souterraine. C'est peut-être d'ailleurs une des caractéristiques de nos sociétés, on va en reparler. Mais comment construire cette figure du méchant ? Il est jamais tout noir, c'est peut-être la leçon d'ambiguïté qu'on peut en retirer dans votre film, mais qu'on peut aussi entendre de la bouche du maître du genre, Alfred Hitchcock.
The problem today is, is presenting a villain, especially in melodrama,
introduire un vilain, spécialement
mélodrame.
Melodrama today is de trop, you know.
Le mélodrame
it isn't done.
Aujourd'hui, c'est réellement un peu trop, c'est un peu passé.
And that is why in North by Northwest picture.
C'est pourquoi dans North by Northwest.
I wanted a very smooth.
Je voulais quelqu'un de très suave.
And soigné sort of
très soigné.
Villain.
Un vilain.
But I naturally also wanted him to have menace.
Mais je voulais évidemment qu'il soit également un peu menaçant.
It's very hard. The smoother you make him,
parce que plus il est suave et élégant,
you strip him of any menace because he wouldn't soil his hands.
Vous le diminuez de tout aspect menaçant car il ne se salirait pas les mains.
So what I did there was to break him up into three people.
C'était de le diviser en trois personnages.
Ah oui.
Mason.
Oui.
Who looked attractive.
Mason qui avait l'air beau. Mm-hmm.
His secretary who looked sinister.
Sa secrétaire qui avait l'air sinistre.
And the third man who was brutal.
Et le troisième homme qui était brutal.
That's right. So I had to break the villain into three people.
Vous comprenez, j'ai divisé le vilain en trois hommes.
C'est très ingénieux, ça.
Alors c'est quand même Alfred Hitchcock interviewé par François Truffaut. Je ne sais pas si on peut faire aussi bien aujourd'hui encore. Cette rencontre avait lieu en 62 et fait suite à La mort aux trousses. Voilà cette construction de la figure du méchant par Hitchcock. À vous maintenant, Xavier Legrand, comment vous l'avez bâti, imaginé votre méchant incarné ici par Denis Ménochet. C'est le père, pas tout noir non plus, loin de là, sinon ça ne marche pas. Et c'est rarement comme ça dans la vie.
Oui, bien sûr. Moi, la question première à laquelle je voulais absolument répondre et en tout cas montrer dans le film, c'est de ne pas dépeindre un monstre et un méchant, mais de montrer un homme. Parce que c'est un homme, avant tout. Et effectivement, la construction du personnage, elle est à multifacettes. C'est ça qui est intéressant. Un homme violent n'est pas qu'un homme violent. Avant d'être violent, c'est quelqu'un qui a une emprise, qui manipule, qui est dans le déni de sa violence, qui est paranoïaque, on peut donner plein d'étiquettes comme ça. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est la sincérité. Et avec Denis Ménochet, le travail qu'on a fait, c'est essayer de traverser cet homme dans une sincérité indéniable. Et c'est ça qui bouscule.
Ce film, Jusqu'à la garde, est le fruit d'une longue enquête de 7 ans durant laquelle vous avez rencontré des victimes, des auteurs de violences, des flics, des psychologues. On se rend compte quand même dans cette situation qu'il y a certaines constances. La première, c'est peut-être ce que vous évoquez, cette figure de l'auteur des violences qui est souvent l'homme, mais pas tout le temps non plus, rappelons-le.
Mmh, bien sûr.
Cette figure qui est duelle entre les douceurs, les regrets, la séduction que vous évoquiez, qui débouche sur une emprise souvent assez forte, et puis des phases de domination, de violence, d'extériorisation, d'un mal-être aussi. Ça, c'est quelque chose que vous avez pu constater.
Oui, bien sûr. Bien sûr, ce sont des gens qui utilisent l'effroi et la peur pour tétaniser les personnes dont ils veulent garder l'emprise, et puis la séduction, l'apitoiement. Pour convoquer la pitié chez les personnes qu'ils ont envie de manipuler, cette envie de d'amour qui ne sera jamais à la hauteur de ce qu'ils attendent. Ce sont des hommes qui sont dans un déni de leur violence, donc du coup soit ils disent souvent mais c'est pas moi, c'était pas moi, il y a un monstre en moi, ou c'est des gens qui ne sont pas dans une réalité en fait, ou en tout cas qui n'arrivent pas à se regarder.
Autre constante, c'est la place des enfants. Ils sont en première ligne dans ce type de conflit, le droit de garde et les enfants instrumentalisés pour garder une forme d'emprise sur le conjoint violenté, cette prise en otage des enfants qui sont placés en situation à la fois de conflit, de loyauté jusqu'à la mise en danger. C'est extrêmement particulier et ça veut dire qu'on ne sait plus finalement qui est vraiment victime dans cette affaire. Elle a aussi, la mère, dans votre film, interprété par Léa Drucker, un rapport qui est compliqué avec ses enfants. On ne sait pas vraiment comment elle les regarde.
Oui, c'est-à-dire
Parce qu'elle n'est pas une mère courage, hein, non, simplement. Elle n'est pas une mère parfaite non plus.
Oui, bien sûr, mais elle est c'est surtout une mère qui est désarmée, qui là, le film s'ouvre justement sur un divorce. Donc elle peut acter le fait qu'elle décide de rompre. Par contre, elle ne peut pas, elle essaye de sauver l'enfant qui est le seul lien qu'il leur reste, et c'est le seul lien qui va lui permettre d'accéder encore à elle. Le problème, c'est j'ai été frappé par une phrase d'un juge aux affaires familiales qui s'appelle Édouard Durand, qui a écrit un bouquin très intéressant où il dit une mère peut protéger son enfant, mais c'est à la société qu'il revient de protéger la mère. Et tant qu'elles ne seront pas protégées, il est très difficile pour elles de protéger leurs enfants.
Oui, société qui est incarnée quand même par l'institution judiciaire dans ce rôle de garant. Et ça, c'est peut-être la troisième constante qui est parfaitement montrée, racontée dans cette très belle scène d'ouverture chez le juge aux affaires familiales. Alors, on aimerait bien quand même avoir tous, dans ce type de situation, d'aussi bons avocats et un juge aussi concerné par ce qu'il entend. La réalité, c'est qu'on est quand même face à une justice qui est souvent débordée, trop de dossiers, une vingtaine, trentaine de minutes pour chaque cas, des moyens, peu de temps et de moyens hein, pour enquêter aussi dans la sphère intime, ce que vous racontez d'ailleurs hein, dans cette situation. On sent bien qu'il y a ambiguïté, tout se joue sur la parole des deux parents et la juge ne sait pas vraiment qui croire et elle n'a pas les moyens d'enquêter ou d'investiguer plus en avant pour savoir où est la vérité. Donc finalement, on choisit à partir de quoi ?
On choisit à partir de plusieurs postulats. Le postulat étant que là, il est décrit qu'il y aurait eu des violences conjugales. Donc ce sont des violences entre conjoints. On est le seul pays à le définir comme ça. À l'étranger, c'est domestic violence. Donc c'est quand même la violence
dans la
sphère domestique. Et donc du coup, comme c'est tourné vers le conjoint, en général, ils ont plutôt tendance à se dire la violence n'est pas tournée vers l'enfant, donc l'enfant n'est pas en danger. Et il y a un autre postulat aussi, du coup, qui en découle, qui est qu'un conjoint violent ne fait pas forcément un mauvais parent. Donc du coup, au lieu de léser un parent, on préfère de toute façon se dire que l'enfant a besoin de ses deux parents pour évoluer comme il faut et de maintenir les liens. Donc oui, ce qui est vrai, il y a énormément de papas qui ont été lésés dans l'histoire du divorce. Mais c'est vrai que quand il y a des violences conjugales, c'est très dangereux.
Dans cette idée du père qui à la fois menace et protège, sécurise son enfant, son fils, et l'instrumentalise, il y a un truc de réalisation que vous avez mis en scène dans Jusqu'à la garde et qui est assez frappant, c'est la ceinture de sécurité. Quand l'enfant monte dans la voiture de son père et qu'il boucle sa ceinture de sécurité, extrait.
Oui.
Myriam ?
Oui.
Qu'est-ce qui se passe là ?
Julien se sent pas bien, je crois qu'il va pas pouvoir venir avec toi.
Sors, on va en parler.
Il a mal au ventre, je pense que c'est mieux si... Mais...
Sors pour me donner son adresse.
Écoute, je veux pas que ça se passe mal.
Aucune raison que ça se passe mal. On applique la décision de la juge, on en barre.
Antoine, il est vraiment pas bien.
Sors, on peut discuter.
Je sors pas, non.
Là, on n'entend pas la ceinture de sécurité se fermer.
C'est juste après.
C'est juste après. Mais on peut quand même raconter. Elle se boucle et se déboucle quand elle n'est pas attachée. Le bip 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 de nos nouvelles voitures numériques, électroniques, au top de la technologie, fait partie de ces sons sur lesquels vous n'avez pas lésiné dans ce film, qui font partie de ces sons du quotidien, dans lequel on sent bien l'angoisse qui monte toute. Petit à petit, et les nerfs qui commencent à se tendre. Vous avez bien aimé jouer avec tout ça. Hein ?
Oui, bien sûr. Ce qui était intéressant, c'est effectivement d'aller dans le thriller, mais sans utiliser les ingrédients qu'on a l'impression qu'on a toujours ou souvent l'habitude de voir, avec une musique qui vient un peu comment dire, accentuer une tension ou indiquer au spectateur qu'il y a un danger qui arrive. Moi, j'avais envie vraiment d'utiliser tous les bruits du quotidien comme une musique, comme des symboles. Et cette ceinture de sécurité était intéressante puisque, ben, quoi de mieux comme endroit, comme décor qu'une voiture pour aller chercher son fils, pour aller un week-end sur deux. Et une fois qu'on est dans cet habitacle enfermé, la ceinture de sécurité protège, mais elle peut aussi emprisonner. Et l'habitacle de la voiture, c'est quoi? C'est un espace privé. Dans un espace public. Et il peut se passer plein de choses dans un habitacle. C'est un espace privé.
Comme quoi, il n'y a pas besoin toujours de sortir les cordes pour créer cette ambiance anxiogène, comme vous l'évoquez. Emprise, domination, relation homme-femme, il est aussi question de tout cela dans votre film. Et il en est beaucoup question aujourd'hui depuis l'affaire Weinstein. Le scandale est parti. C'est peut-être pas anodin des cuisines d'Hollywood pour gagner toutes les sphères de la société aujourd'hui. C'est intéressant ce retour de boucle auquel vous procédez. C'était pas voulu et c'est involontaire bien sûr, mais par le cinéma, que le cinéma s'empare de ces problématiques aujourd'hui, ça dit quand même quelque chose.
Oui, c'est vrai que l'actualité, le film arrive à un moment où, bien sûr, c'est pas, enfin, ce sont des violences, d'harcèlement sexuel qui sont surtout décrites, alors que nous, là, dans le film, on parle plutôt de violences dans la famille et de violences conjugales, mais qu'est-ce qui rejoint, c'est la domination masculine, et d'où vient-elle? Elle vient d'une construction familiale patriarcale, dans laquelle on est encore, et c'est de ça dont parle le film surtout. C'est comment le chef de famille ce terme a été aboli du code napoléonien en 70, est encore très présent dans nos familles. Et c'est ça qui sans doute fait qu'on a une autre lecture aujourd'hui avec ce qui se passe.
Et au sujet de la représentation des femmes au cinéma, votre héroïne jouée par Léa Drucker, comment l'avez-vous pensée? Elle n'est pas qu'une victime pour vous?
Non, justement, je ne voulais pas la montrer comme victime, comme on a souvent l'habitude de voir dans les fictions. Les femmes victimes, on les voit tremblotantes, tout le temps apeurées, avec des bleus, avec la lèvre fendue. Non, c'est moi ayant rencontré énormément de victimes, j'ai vu que c'était des femmes qui avaient des carapaces, qui sont fortes, qui sont presque même dépossédées, démolies à l'intérieur, mais qui essayent de garder cette dignité malgré tout. Et ce sont des femmes qui sont dans l'action. Quelquefois, elles sont immobilisées dans cette action, mais en tout cas, elles essayent de s'en sortir.
Xavier Legrand, réalisateur de Jusqu'à la garde en salle mercredi prochain, et notre invité jusqu'à midi et demi. Pour l'heure, il est midi 20 sur France Culture.
France Culture. La grande table. Olivia Jasbert.
Et nous, on vous garde, Xavier Legrand, jusqu'à midi et demi. On vous enferme dans ce studio. Vous ne pouvez plus bouger. Vous êtes acteur à l'origine, acteur pour les autres, mais vous n'avez pas fait le choix de vous offrir même un tout petit rôle dans ce film. Pourquoi?
Parce que, déjà, écrire pour soi, je crois que je ne suis pas prêt. Et puis, diriger un premier film, c'est tellement de travail, de responsabilité, que je pense que j'avais déjà assez de stress pour m'en donner un supplémentaire en passant devant la caméra. Et puis aussi parce qu'il n'y avait pas forcément de rôle pour moi. Voilà.
Vous auriez pas pu incarner le rôle du père?
Oh non, mais parce que le travail que ce rôle demande fait qu'il faut être complètement plongé dedans et pas s'occuper d'autre chose.
Mais vous êtes
chose.
Plongé dedans aussi.
Je me suis plongé dedans, mais en tant qu'auteur, en tant que réalisateur, en tant que dieu de l'histoire. Parce que quand on crée une histoire, on est comme le dieu du monde qu'on invente. Donc non, je pouvais pas, absolument pas jouer le père.
Et vous venez du théâtre, Xavier Legrand, donc je vais vous faire entendre la voix d'un autre dieu des planches, celle de Patrice Chéreau, à propos de sa direction d'acteur.
Non, j'ai jamais eu envie d'être acteur. J'ai pas mais ça m'a jamais plu autant que de mettre en scène. J'ai toujours la même réponse, pardon, hein, mais j'en ai pas d'autre. À la seconde où j'ai compris que derrière tout ça, il y avait quelqu'un qui organisait le tout, je me suis dit, je serai cette personne-là. Construire un décor à l'époque, faire une scénographie, surtout regrouper tout le monde dans le même projet. Ça, j'ai compris très vite que c'était ça qu'il fallait faire. Parce que sinon, tout le monde va dans tous les sens. Et donc, il y a un côté fédérateur où il faut Après, j'ai affiné la définition, mais par exemple, il y a toujours un problème qui est de mettre tout le monde à la même, sur la même longueur d'onde, qui est de mettre tous les acteurs ou tous les chanteurs d'arriver à travailler ensemble. Or, comme dans la vie, il y a des gens rapides et des gens lents. Il ne faut pas admirer les rapides, il ne faut pas mépriser les lents, il faut les forcer à s'écouter, ce qui n'est pas simple en général. Et là, le metteur en scène est vraiment important.
Donc au départ, c'est chef d'équipe.
Absolument. Et puis après, ensuite, c'est chef d'équipe aussi. C'est tout le temps chef d'équipe. Là, je suis plutôt bon.
Vous vous sentez bien, vous, en chef d'équipe? C'est un rôle qui vous va bien?
C'est un rôle que j'apprécie, oui. Moi, je dirais chef d'orchestre, plutôt. Mais oui, c'est l'énergie, quoi. C'est-à-dire que moi, ça me grise vraiment. J'adore ça, de voir comme ça une équipe qui s'investit et qui est au service de quand même, faut juste remettre dans la réalité, c'est que, bon, c'est pas un jour on se lève, on a une idée, mais c'est qu'on passe du temps seul en écriture à essayer d'inventer un monde, et d'un seul coup, il y a 50 personnes qui font des pieds et des mains pour que ce monde existe. Ça, c'est émouvant, ouais.
Et cette idée, ce film, il est venu comment?
Oh, il est venu de loin. Étant acteur de théâtre, je voulais écrire pour le théâtre à la base. Et je suis passionné par les tragédies grecques, les tragédies classiques, les liens de sang, les liens de pouvoir qui peuvent amener jusqu'à l'horreur, comme on peut voir dans les figures de Médée ou d'autres figures, grandes figures tragiques. Et je me suis aperçu de deux choses. D'une part, que mon écriture n'était pas du tout, j'étais pas du tout talentueux pour écrire pour le théâtre, parce que je n'ai pas de langue, je n'ai pas de poésie. Mon écriture est plutôt liée à l'action et à l'image. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé d'écrire pour le cinéma. Et puis cette tragédie que je voulais piocher dans notre monde contemporain, je l'ai trouvée effectivement dans la violence dans la famille, mais notamment dans cette violence conjugale, qui est une violence cachée, incomprise, silencieuse, insidieuse. Donc voilà, et c'est venu de là.
Il y a un pont, un fil qui se tend entre les tragédies grecques et aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez le sentiment qu'on est dans une continuité, dans cette dramaturgie, dans cette idée de tragédie. Le temps, finalement, n'a pas remis en question ou en cause complètement ce qui sont les fondamentaux de la tragédie.
Oui, mais je crois que quand on parle de tragédie, on parle quoi de... Je vais peut-être enfoncer des portes ouvertes ou des idées complètement un peu absurdes, mais c'est le sang. On s'est construit quand même que le sang versé à la guerre par les hommes est un sang pur et le sang perdu par les femmes est impur. Et de là, on a construit notre schéma de vivre ensemble entre les hommes et les femmes et le pouvoir. Et j'ai l'impression que notre culture est encore empreinte de ça.
Jusqu'à la garde aurait pu faire une bonne pièce de théâtre si vous aviez réussi à écrire pour le théâtre.
Sans doute, peut-être.
Ou est-ce qu'il fallait y ajouter les moyens du cinéma pour accentuer
Je pense que ça pourrait être au théâtre, mais ce ne pourrait pas être moi qui l'écrirais. Parce que trouver cette tension, cette peur sur la scène, je trouve. Enfin, moi, je n'ai pas encore résolu comment pouvoir le retransmettre, en fait.
Vous évoquez l'influence des tragédies grecques aussi sur cette manière de penser votre film. Dans la construction, il y a quelque chose de théâtral. En tout cas, dans le projet de départ, avant que de tout perdre, c'est le court-métrage qui a aussi inspiré ce long-métrage Jusqu'à la garde, César du meilleur court, nommé aux Oscars, premier volet de ce qui aurait dû être une trilogie telle que vous l'aviez pensé, dans Avant que de tout perdre. Vous êtes sur le temps de la fuite. Ensuite, il devait y avoir un deuxième volet qui était plutôt sur le temps de la séparation, de cette question de la garde, et un troisième sur l'homicide. Vous avez finalement choisi de faire un deux en un. Mais il y avait cette construction en acte,
oui,
que vous aviez pensé.
En acte, en trilogie, comme l'Orestie, voilà, je sais pas. Oui, c'est vrai qu'il y avait comme ça une envie de trois temps différents. Et bon, je me suis fait avoir parce que je me suis aperçu qu'effectivement mon projet ne tenait pas debout.
Mais pourquoi il ne tenait pas debout? Parce que c'est le temps du cinéma qui vous a rattrapé, justement?
Oui, bien sûr. Parce que le premier épisode, Avant que de tout perdre, c'est un court-métrage de 30 minutes où on suit une femme qui organise son départ, sa fuite. Et en une seule journée, donc c'est un film qui d'ailleurs est plus un film d'action qu'un thriller. Donc là, le temps était efficient, efficace, organique avec ce que je voulais raconter. Et en revanche, je me suis aperçu que le problème du divorce et de la garde, donc le problème juridique, et effectivement le point final où on en arrive, donc dans la terreur, presque l'horreur, c'était des temps où en court métrage, je ne me laissais pas... J'avais pas l'espace d'aller en profondeur, et en plus je trouvais ça en fait pas du tout judicieux de séparer justement le divorce, le juridique et la fin tragique justement. Il fallait les rassembler.
Vous avez fait le conservatoire, Xavier Legrand, et du coup cette cinéphilie que vous avez, le goût des films, c'est ce qui a été votre école de cinéma. Vous n'êtes pas passé par une école de la réalisation, donc c'est en regardant des films, les films des autres, que vous avez appris à tourner, à cadrer.
Oui, je pense que j'ai développé mon propre vocabulaire en observant et en décryptant le vocabulaire des autres cinéastes. Je suis pas un grand cinéphile, je vais beaucoup plus au théâtre qu'au cinéma, donc c'est vrai que j'ai peut-être cette chance ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas je le prends comme une chance de pas vouloir être influencé par un courant ou un autre. J'ai l'impression d'avoir un peu développé mon propre vocabulaire de mon côté. Donc voilà, il y a plein de cinéastes que vous citiez. Piala, je connais pas bien Piala, c'est honteux, hein, mais non, je me suis plutôt attardé sur Chabrol, dont j'ai découvert tous les films, Hitchcock, effectivement, dont on parlait tout à l'heure, ou Haneke, Gus Van Sant, voilà. Mais c'est... Oui.
Non, je me disais, Jusqu'à la garde, c'est typiquement un film qui va tourner beaucoup en France. Vous allez l'accompagner, il y aura des débats, des discussions qui vont être organisées autour de ce film, même si... C'est un vrai film de cinéma et pas un documentaire, pas un film social dont on peut, un message dont il faut forcément faire quelque chose. Mais vous allez accompagner ce film ?
Si on me le demande et si je suis disponible, mais c'est vrai que moi, je suis cinéaste et pas sociologue. Donc si on a besoin de mon regard de cinéaste pour faire un débat avec des professionnels, je le ferai volontiers. Mais je pense que c'est aux gens de s'en emparer et de discuter ensemble du film.
Avant que de tout perdre, titre donc de court-métrage qui a donné l'élan aussi de Jusqu'à la garde, ce long-métrage, c'est le début d'un vers du poète Roger Allard. La suite est...
Il vaut mieux tout quitter.
Ça, c'est une sagesse que vous vous appliquez en toutes circonstances.
Avant que de tout perdre, s'il faut mieux tout quitter ? Sans doute, oui. En tout cas, faut sauver sa peau si vraiment on risque de perdre l'essentiel. Vaut mieux quitter les choses et garder l'essentiel.
Bon, là, on est encore au rang simplement de l'accessoire, mais quittez-nous, Xavier Legrand. Oui. L'heure est arrivée. Merci mille fois. Jusqu'à la garde.
Merci à vous.
En salle mercredi prochain. Merci.
Merci.